Il y a Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Doublée de violences contre les civils perpétrées par des groupes armés, certains se proclament groupes d'autodéfense.
Voilà, merci beaucoup Jenny. Et à présent, nos invités pour le débat. À Bamako, nous avons Alexis Calambré, directeur de publication du journal Mali Tribune, toujours dans la capitale malienne. Sekou Tangara, il est directeur de Africable, chaîne partenaire de la VOA à Bamako. Et ici aux États-Unis, à Houston, au Texas, Aristide Sidibé, analyste politique. Merci à tous d'être avec nous. Alors Alexis, je démarre avec vous. Avant l'ouverture du sommet d'Abuja, le président de transition Assimi Goïta a envoyé une lettre au président en exercice de la CEDEAO pour lui signifier qu'un calendrier électoral serait proposé avant le 31 janvier. Mais apparemment, cela n'a pas suffi. La CEDEAO veut toujours des élections pour le 27 février. Quel est le message que les dirigeants ouest-africains essaient de véhiculer, selon vous? Vous êtes avec nous?
Je me lance en premier alors, oui. Mm-hmm. Voilà, en fait... Le message est clair. Il s'agit pour la CEDEAO de jouer sa survie en tant que institution et en tant que gardien de certaines valeurs partagées de la sous-région. Et il était convenu et question qu'un chronogramme soit envoyé depuis longtemps. Mais le Mali est parti pour dire nous vous l'enverrons le 31 janvier. Donc la CEDEAO pourrait rester logique avec elle-même, se devrait de garder l'épée de Damoclès et de proposer des choses. Le second volet, c'est que en regardant du côté du Mali, les autorités ayant annoncé des assises nationales et ayant dit que ces conclusions vont dépendre de la charpente et l'architecture à proposer, il est évident qu'il y a discordance des deux côtés. Donc le tout maintenant, c'est de savoir comment les deux parties vont s'entendre sans que l'un ou l'autre ne perde la face. Mmh. La CEDEAO oui. doit garder ses principes. Le pays doit faire en sorte que ses valeurs et ses décisions soient respectées.
D'accord. Alors, Sekou, comment est-ce que ce message de fermeté de la CEDEAO est interprété à Bamako?
Oui, elle est interprétée comme un acharnement. Et le mot on retient du chef de la diplomatie lui-même. Vous savez que les diplomates, ils ont leur tact, ils ont une façon assez sorte de dire les choses, mais entendre le chef de la diplomatie malienne penser à un acharnement contre le Mali, ça voudrait dire ce que ça voudrait dire. L'opinion, le vox populi n'en parle même pas. Elle pense également qu'il y a bel et bien un acharnement contre le Mali. Cela dit, ce qu'on peut dire par rapport à la posture des autorités, elles essaient d'être en harmonie avec la transition, en harmonie avec le peuple, puisque la transition est l'émanation. Manifestation à l'intérieur du Mali, à l'extérieur du Mali, manifestation desquelles les Maliens s'est exprimé. Aujourd'hui, voir que la transition essaie d'être prudente en avançant des dates, en attendant les assises nationales, elle veut peut-être être en harmonie avec ce peuple-là qu'elle représente.
Alors, Aristide Sidibé, les autorités de la transition, est-ce qu'elles ont la bonne posture dans cette affaire? Est-ce qu'elles peuvent se permettre un bras de fer avec une organisation régionale dont le Mali fait partie?
Tout d'abord, merci. Moi, je pense que, pour répondre à votre question, la CEDEAO essaie de sauver la face. Parce qu'en réalité, réunion des chefs d'État de la CEDEAO était prévue pour prendre des sanctions contre le Mali. Et si je me souviens bien, la ministre des armées françaises avait même dit, laissé entendre qu'il y aura des sanctions contre le Mali. J'ai l'habitude de dire sur votre plateau ici que la CEDEAO n'a pas les moyens de sa politique au Mali. Et j'aborde un peu dans le sens de Sékou en disant que l'opinion malienne, je vais même un peu plus loin, pas seulement la déclaration du ministre des Affaires étrangères malien, l'opinion malienne pense que la CEDEAO est l'instrument des intérêts d'autres pays. Et je vais prendre un seul exemple. Et quand vous regardez le communiqué final des chefs d'État, il y a certains points sur le Mali et ils ont fait mention de la tragédie qui a frappé le Burkina. Mais il n'y a pas eu aucune mention de ce qui s'est passé dans la région de Badiangara et plus précisément à Sogo où tout un bus a été brûlé. Voilà des choses que les Maliens vont remarquer et sont en train de remarquer. Donc moi je trouve que la CEDEAO a sauvé la face en faisant croire qu'elle peut faire des pressions. Certes, elle peut le faire, mais les conséquences, on va certainement en discuter, seront très drastiques parce que les autorités D'accord. maliennes seront mises dans une position où ils vont vouloir travailler avec d'autres partenaires.
C'est intéressant ça. Alors, Alexis Calambry, le pouvoir malien ne semble pas être dans une logique d'organiser des élections en février. Hein. Mais pensez-vous que la publication d'un chronogramme d'ici fin janvier, comme le promet le colonel Goïta, pourrait apaiser la CEDEAO sur les intentions de la junte à rendre le pouvoir à un président civil?
Oui, en fait, la CEDEAO est également dans une posture qui n'est pas favorable. Oui, ce n'est même pas seulement l'opinion malienne. Elle est vraiment décriée par l'opinion de toute la région, qui la voit comme le syndicat et le chef d'État. Mais c'est vrai, sa position n'est pas confortable. Si vous regardez, quand commençait la crise guinéenne, la CEDEAO a voulu intervenir et le président qui a été déposé a refusé de recevoir la CEDEAO. Et maintenant, elle se trouve dans une position où elle est accusée à la limite de vouloir aider le président qui n'avait pas voulu son aide en son temps. Mais dans le cas d'espèce, aujourd'hui, comme je le disais, c'est de trouver les moyens de partager la poire en deux. Comment proposer un chronogramme qui puisse être accepté et comment la CEDEAO peut faire en sorte qu'elle ne perd pas la face parce que si jamais elle ne trouve pas de solution, si jamais ces pressions ne marchent pas au Mali, c'est presque une CEDEAO sans moyens qu'on verra.
C'est un peu un cas d'école pour vous, le Mali, pour la CEDEAO, c'est un cas d'école?
Le Mali est un cas d'école pour la CEDEAO parce que ça remet en cause tous les acquis, mais également ça va permettre à l'institution de se poser des questions. Elle a des principes qui sont partagés par tout le monde, mais elle n'a aucun moyen de pression, peut-être en dehors des embargos, mais elle n'a aucun moyen de faire en sorte qu'un État applique ses décisions si ce n'est pas par la case des embargos. Et ce n'est pas évident que les États se placent.
Sékou, pour vous, quel est le délai raisonnable pour la tenue des élections au Mali hein? Ou pensez-vous que ce n'est pas la priorité, surtout dans le contexte sécuritaire actuel?
Bon, délai raisonnable, on peut avoir un indicateur selon le président de la Commission d'organisation des Assises nationales de la Nation, les rapports ont pu se tenir sur au moins plus de 80% du territoire national. C'est une indication, ça veut dire que si la volonté est là et si la classe politique, l'administration se mettent ensemble, dans un délai raisonnable, on peut bel et bien organiser cette élection présidentielle. De toute façon, il faut quitter cette transition-là. Il faut le retour à un ordre. La CEDEAO ne doit pas être incohérente envers elle-même, incohérente. Pourquoi? Puisque en 2020, à l'issue des élections législatives, il y a eu une crise et les missions de la CEDEAO à Bamako, ce sont elles-mêmes qui ont recommandé à ce qu'il y ait des réformes nécessaires pour que plus jamais au Mali on assiste à une crise post-électorale de ce type-là. Et aujourd'hui, maintenant,
nous
avons été fermés. Et c'est là qu'on ne comprend pas cette incohérence.
D'accord. Alors, Aristide, autant l'aspect sécuritaire pour justifier que la transition prenne le temps qu'il faut pour organiser les élections, selon certains en tout cas, autant d'autres estiment que le rôle d'un gouvernement de transition, c'est de rendre le pouvoir à un gouvernement civil le plus tôt possible. Comment faire un peu l'équilibre entre les deux?
Merci pour la question, Antraman. Moi, je vais aller un peu dans une autre direction. Au lieu de demander aux Maliens, aux autorités maliennes de s'engager encore à une date, parce qu'en réalité, on constate pas seulement au Mali, mais en Afrique, souvent on pousse les dirigeants à prendre des engagements. Ça sent bien qu'ils ne peuvent pas les respecter. Au lieu de demander aux autorités maliennes une date, pourquoi on ne demande pas à l'AMINUSMA de s'associer aux forces armées maliennes pour accompagner les agents électoraux dans les villages pour faire la révision des listes électorales? Pourquoi on ne fait pas ça? C'est très facile de demander aux autorités maliennes de faire les élections. Mais comment ils vont aller recenser les gens dans les zones qu'ils ne contrôlent pas? Donc, moi, je pense qu'une médiane entre les deux positions serait à cette soi-disant communauté internationale, tout le monde connaît mon avis là-dessus, de donner les moyens à l'aménagement, même pas les moyens existent, qu'elle accompagne les autorités maliennes pour faire ça dans les régions.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VO Afrique. Daouda Djekile, à Bamako, nous dit « Si la CEDEAO était aussi intransigeante face à la mauvaise gouvernance du régime Ibeka, nous n'en serions pas à ce stade. Le peuple malien, dans sa majorité, voit en la CEDEAO un fardeau. Le Mali est déterminé à suivre la transition en suivant la volonté populaire qui sera déterminée par les assises en cours. » Omar Maïga, Niamey au Niger, écrit « Le choix reste au peuple malien qui, dans sa majorité, soutient cette transition. Les élections seront organisées, mais pas dans ces conditions. La priorité aujourd'hui pour chaque Malien, c'est d'abord la sécurité. » Et puis Alphonse Mbouaki est à Kinshasa, en RDC. Il nous dit « Je pense que la CEDEAO doit donner le temps aux autorités maliennes de se préparer calmement à la tenue des élections, car les défis sont lourds à relever, sécurité et autres. » Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités. À Bamako, nous avons Alexis Calambri, directeur de publication du journal Mali Tribune. Toujours à Bamako, Sekou Tangara, directeur de Africable, chaîne partenaire de VOA Afrique, et à Houston, au Texas, Aristide Sidibé, analyste politique. Alors, Alexis, l'une des raisons évoquées pour justifier l'impossibilité peut-être d'organiser les élections le 27 février, c'est la tenue de ces assises nationales. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces assises?
Oui, en fait, selon les autorités, les assises ont pour but de dessiner la nouvelle architecture nationale et de donner l'impulsion ou les directives qu'on veut donner pour le Mali nouveau qu'on veut dessiner. Alors, seulement le hic, c'est que les mêmes difficultés que nous avons rencontrées avec le dialogue national équilibré sont là, en ce sens que, quelle que soit la représentativité, dès lors qu'un acteur refuse de participer, je pense que l'inclusivité qu'on cherchait n'est plus là. Donc, ça avait pour but de dessiner la nouvelle architecture qu'on veut donner à la nation. Est-ce qu'avec ceux qui refusent d'aller, on a cela? C'est ça toute la question.
Et justement, c'est quoi le cadre d'échange, qui est une structure qui regroupe des partis politiques et d'autres organisations, parle de manœuvres dilatoires et rejette déjà les conclusions qui seront issues de ces assises. Des signataires de l'accord d'Alger également se sont aussi démarqués. Pourquoi ils ne sont pas à bord? Et est-ce que ça peut remettre en cause les conclusions de ces assises?
Oui, justement, c'est un peu le talon d'Achille de ces assises-là, déficit d'inclusivité dans le cadre d'échange. Le CSP, les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, ce sont des acteurs énormes et moindres. Leur absence en avant d'outil peut avoir un impact sur les résolutions de ces assises-là. Mais cela dit, il faut avec beaucoup de recul voir tout cela. On a vu que depuis l'histoire, chaque 30 ans, le Mali connaît des événements majeurs. En 1960, ça a été l'indépendance. En 1991, ça a été l'avènement de la démocratie, suivi justement d'une conférence souveraine qui a décidé le Mali des 30 prochaines années. Et 30 ans après, aujourd'hui, en 2021, on est un peu dans cette phase-là. C'est-à-dire, avec ce que je disais, la nouvelle architecture nationale du Mali, de façon cyclique, de façon naturelle, c'est maintenant qu'il faut la dessiner. C'est dommage que ces acteurs-là dont vous avez parlé ne puissent pas participer à ces assises-là, mais c'est devenu aussi une tradition au Mali. Hein. Les concertations nationales, ce n'est pas toutes les composantes qui n'ont plus pas. Le dialogue national inclusif, il y a des Maliens qui n'y ont pas. Et les assises nationales également, c'est un truc qui ne faut pas prendre part. Mais est-ce que pour autant la marche du Mali doit s'arrêter? Et c'est ça aussi la question.
D'accord. Alors, à rester au-delà de la question électorale et sécuritaire, qu'attendez-vous de ces assises? Par exemple, je sais que le Mali a une diaspora très dynamique et également beaucoup de cadres. Qu'est-ce que vous attendez de ces assises?
En fait, nous, on attend beaucoup. On attend beaucoup dans le sens que on donne finalement la parole au peuple malien. Parce que quand vous prenez l'accord d'Alger et d'autres forums où on discute l'avenir du Malien sans les Maliens, et je pense que tout le monde doit comprendre que les Maliens sont aujourd'hui dans cette optique que, au-delà même du fait que ça peut être initié par des autorités en place, mais c'est une aspiration profonde des Maliens. Les Maliens veulent avoir la parole pour discuter de leur avenir et des solutions endogènes pour le pays. Et moi, je trouve que c'est bien normal. Et le fait que certains groupes ne veulent pas participer, bon, c'est ça la démocratie. Sous Ubeka, il y a eu le dialogue national inclusif. Beaucoup de Maliens de la diaspora n'ont pas voulu participer. Pour autant, ça s'est fait. Donc pour moi, cette logique souvent de vouloir avoir l'unanimité autour des choses, c'est pas ça. La démocratie n'est pas l'unanimité. Hein. Donc ils ont fait un choix et le pays va continuer.
Et Alexis, je vous pose un peu la même question. Quelles sont vos attentes pour ce qui est de ces assises?
Les assises, pour moi, ce qu'on cherchait, c'était l'inclusivité. Ce qu'on a reproché au résultat du dialogue national sont ce qu'on va reprocher au résultat des assises, en ce sens que même si une personne a refusé de participer, ça fait tâche vide. Mais en tout état de cause, puisqu'il s'agit de dessiner la nouvelle architecture, puisque si vous regardez, et ça c'est quand même une avancée, si vous regardez les termes de référence, on fait référence déjà au dialogue national. Donc, pour moi, ce qui est grave, c'est que les mouvements armés n'ayant pas voulu participer, sinon tout le reste, prenant en compte les résultats du dialogue national, on peut redessiner la nouvelle architecture. Mais le tout est vraiment de créer une certaine accalmie, une certaine sérénité. Notre faiblesse, c'est que jusque-là, les Maliens ne se sont pas vraiment mis autour de la table, n'ont pas fait un certain chorus autour du gouvernement pour le soutenir dans ses actions et pour permettre au gouvernement successif de travailler dans une certaine sérénité. On en a besoin aujourd'hui, que tout le monde se sente concerné. Ça permet de faire en sorte de donner plus de légitimité aux décisions.
Justement, Sekou, comme l'a dit Alexis, on a quand même, et vous le disiez aussi un peu plus tôt, les processus politiques au Mali sont souvent interrompus. Cette fois-ci, vous pensez qu'après ces assises, après les prochaines élections, quand même, qu'on puisse donner le pouvoir à un gouvernement civil qui puisse s'inscrire dans la durée?
Justement, lorsque vous posiez la question à Alexis, si le Mali va être un cadre d'école pour la CEDEAO, cela me faisait sourire, ça me faisait penser un peu au Ghana de John Jerry Rawlings, qui est passé exactement par le même parcours. Un, deux coups d'État, après, il a assaini le pays, il a nettoyé les sécurités de chasse, il a doté du pays des institutions qui viennent de justice, même si le diable qui arrivait au pouvoir, il n'allait pas tripatrier un certain nombre. Le Mali est aujourd'hui à ce niveau-là pour faire en sorte que plus jamais de coup d'État, plus de corruption à grande échelle, et c'est possible à travers justement ces assises-là, la réforme politique, le normalisme politique, les responsables du parti politique qui se font élire par un parti A, élu par l'Assemblée nationale, qui doit être un parti B. Là, ce sont des choses, franchement, il faut vraiment tourner la page. Et définitivement, aujourd'hui, cette transition est l'opportunité ou jamais d'aller implémenter ces réformages.
C'est vrai. Et on a peut-être moins d'une minute Aristide. Sekou parlait un peu de l'exemple du Ghana qui, depuis que Jerry Rawlings a quitté le pouvoir, c'est quand même inscrit dans une logique démocratique. Et depuis lors, il n'y a pas vraiment. C'est une des meilleures démocraties du continent. Vous espérez que le Mali peut s'inspirer d'un cas comme le Ghana?
Le Mali est sur le chemin, Monsieur Diaye. Le Mali est sur le chemin. Et rapidement, ceux qui ne participent pas aux assises, les partis politiques, ils ne veulent pas qu'on fasse leur procès pendant les assises, ça c'est compréhensible. Les mouvements armés, ils sont dans le gouvernement et ils ne veulent pas participer. Donc moi je trouve que c'est des marchandages politiques et le Mali va avancer. Le Mali va avancer.
Voilà, c'est sur cette note d'espoir qu'on termine cette émission. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique, particulièrement à Blanche Sanou. À très bientôt. Au revoir.